Au Mali, alors que les FAMA enregistrent des avancées spectaculaires en peu de temps, ce que Barkhane et Sy n'ont pas fait en 9 ans de présence, l'étau se resserre de plus en plus autour de Barkhane et Sy. La junte au pouvoir au Mali a réitéré avec insistance, dans la nuit du mercredi au jeudi 27 janvier, son exigence de départ immédiat d'une centaine de soldats danois déployés dans le pays sahélien, dans le cadre du groupement européen de forces spéciales Takuba, initié par la France. Bamako avait déjà demandé lundi au Danemark de rappeler immédiatement son contingent récemment arrivé au Mali pour participer à Takuba, une force destinée à accompagner les soldats maliens au combat face aux djihadistes au motif que ce déploiement était intervenu sans son consentement. Selon la junte, Copenhague avait saisi Bamako le 29 juin 2021 d'un projet de texte en vue de convenir du statut des forces spéciales danoises devant intervenir au sein de la force Takuba. Cette requête est sous examen, a répondu le gouvernement malien en novembre. Selon le communiqué, le Danemark reste donc en attente de la validation de l'accord. Personne ne viendra plus au Mali par procuration. Avant, ça se faisait. Aujourd'hui, c'est fini, a déclaré Choguel Kokal Maïga à des journalistes à l'occasion d'une rencontre avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, à la tête d'une délégation. « Si quelqu'un doit venir au Mali, on se met d'accord là-dessus », a insisté M. Maïga. On a dit aux Danois, « Si vous voulez venir au Mali, c'est un engagement entre Danois et Maliens », a-t-il ajouté. Le Mali enchaîne donc les coups anti-Occident. Après des restrictions posées dans l'espace aérien malien et la remise en cause des accords de défense liant Bamako à Paris, cette demande de retrait du contingent danois constitue une nouvelle gifle contre une occupation qui croyait que 9 ans d'occupation militaire, économique et politique du Mali avait transformé ce pays en un précaré conquis. Mais les dernières prises de position maliennes ont clairement montré que tous les plans français sont tombés à l'eau et que même après 2 coups d'État consécutifs, rien n'a été gagné pour la France ici. Il est clair que le peuple malien et son gouvernement sont assez puissants pour pousser les Occidentaux hors de leur territoire avec la seule force de la parole. Ils n'ont pas besoin d'user de la violence, mais la colère contre les néocolons est tout de même énorme et le Mali avance doucement mais sûrement dans la voie de la libération. Cela dit, il faudrait accélérer et porter le prochain coup qui serait le départ complet des militaires occidentaux en mettant en avant les succès de l'armée nationale, la nationalisation des ressources naturelles du Mali, qui pourrait largement aider le Mali à faire face aux sanctions, et la sortie du franc CFA. Une nouvelle attaque attribuée au mouvement du 23 mars, qui se fait également appeler Armée révolutionnaire du Congo, a visé mardi une position de l'armée congolaise dans le territoire de Rutshuru, à plusieurs dizaines de kilomètres au nord de la ville de Goma. Le bilan fait état d'une 20aine de soldats tués lors des combats selon des sources locales et la société civile. Les forces armées congolaises confirment les affrontements, mais pas les lourdes pertes. Elles confirment néanmoins qu'un colonel fait partie des victimes. L'attaque a visé une position de l'armée près du parc de Virunga, à Yessissi. Des pertes ont également été enregistrées du côté des rebelles, mais aucune source, encore moins l'armée, ne précise leur nombre. En effet, en RDC, depuis l'arrivée des Américains dans l'Est, nous assistons à pas mal de changements allant, bien évidemment, à contresens des intérêts de la RDC et de sa population. Ces déstabilisations sont en effet perpétrées contre la RDC par des agents régionaux tels que le Rwanda. Le Rwanda et toutes les autres parties prenantes au conflit armé qui secoue la RDC depuis 3 décennies ont toujours évoqué des considérations politiques, ethniques et surtout sécuritaires pour justifier les interventions militaires répétées et le soutien aux milices locales. Pourtant, l'Est de la RDC est une des régions minières les plus riches du monde. On y trouve notamment d'immenses réserves de coltan, mais aussi de l'or et d'autres métaux précieux, ou des terres rares, utilisée dans les technologies numériques. Malgré le départ du président Joseph Kabila et le réchauffement diplomatique entre le Rwanda et la RDC, sous la houlette du président Félix Tshisekedi, les incursions illégales de l'armée rwandaise sur le sol congolais se poursuivent. Dans son rapport publié en février 2021, le Kivu Security Tracker souligne que l'ingérence des puissances régionales dans l'est du Congo s'est accrue ces dernières années. Qu'il s'agisse de minerais, de produits agricoles et forestiers, de l'argent ou de bétail, les militaires rwandais et leurs alliés ont organisé, coordonné, encouragé et mené des activités de pillage systématique dans les zones sous leur contrôle en RDC. Par exemple, dans le secteur minier, l'armée rwandaise et ses alliés ont, en 1998, pillé un stock de 7 ans de coltan appartenant à la société minière et industrielle du Kivu. Il a fallu près d'un mois aux Rwandais pour transporter le précieux minerai jusqu'à Kigali. Au-delà des pillages, l'armée rwandaise s'est livrée à l'exploitation directe des ressources minières sur le territoire congolais qu'elle contrôlait. L'extraction des ressources naturelles était tellement intense que le Rwanda importait de la main-d'œuvre. Il utilisait des prisonniers rwandais pour extraire le coltan et en contrepartie, leur octroyer une réduction de peine ou un versement. En mars 2001, ils étaient plus de 1500 prisonniers rwandais à extraire le coltan à Numbi sous la surveillance des forces rwandaises. L'importance de la main-d'œuvre employée donne une idée de la quantité de minerais extraits et volés. L'enquête de l'ONU a également prouvé que Rwanda Metals, tenu par le FPR et parmi d'autres entreprises publiques ou proches du gouvernement rwandais, a exploité le coltan en RDC. Le régime de Paul Kagame a su adapter sa politique étrangère et sa stratégie d'exploitation du Congo oriental face à ses homologues successifs de Laurent Désiré Kabila à Félix Tshisekedi, en passant par Joseph Kabila. En témoignant les accords signés en juin 2021 sur l'or, Kagame a su profiter de la volonté du président Tshisekedi de renouer des relations avec lui pour réguler ce secteur et aboutir à ce que l'or congolais soit transformé dans une fonderie rwandaise. Ainsi, la prédation pourra perdurer légalement. En effet, comme on a déjà vu à travers le monde, là où les États-Unis mettent le pied, il est clair qu'il faut s'attendre à ce que des scénarios tordus apparaissent. La leçon que beaucoup de pays dans le monde tirent de ce qui se passe actuellement en Afghanistan, c'est bien le fait que les États-Unis s'implantent dans un pays, prétend vouloir renforcer l'armée nationale et annoncer ensuite son départ. Si le but était vraiment de faire cela, on aurait déjà pu voir des résultats quelque part dans ce monde. Reste à savoir si en voyant tout ceci, la RDC de Tshisekedi voudra encore d'une coopération militaire avec les Occidentaux. Les Sénégalais étaient appelés le 23 janvier 2022 à désigner leur maire pour la première fois au suffrage universel direct. D'après des résultats presque définitifs, l'opposition a gagné un grand nombre de grandes villes, dont la capitale Dakar. Comment peut-on analyser cette élection? Macky Sall a-t-il perdu Dakar?
Ce sont les réseaux du Quai d'Orsay, comme Jeune Afrique, et par exemple, les réseaux de George Soros aux États-Unis qui parlent de défaite de Macky Sall. Dans la réalité, la coalition présidentielle s'est maintenue dans toutes les villes du Nord et elle a perdu les grandes villes du Centre. C'est mauvais, évidemment, puisqu'on peut constater un clivage du pays. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal en réalité? Macky Sall est l'objet d'une campagne contre lui qui est menée par les réseaux de George Soros et les réseaux du Quai d'Orsay. Cette coalition est menée par le jeune Ousmane Sonko, qui est le protégé de George Soros, mais aussi du Quai d'Orsay, et qui, sous prétexte de démocratie, mène une tentative de révolution de couleur au Sénégal, comme il l'avait déjà fait lors des dernières élections présidentielles. À cette occasion, les groupes de George Soros, notamment le groupe Ousmane Sonko, a fait appuyer Sonko contre Macky Sall. Depuis, des lois ont été adoptées au Sénégal. C'est le premier État africain qui a pris des lois empêchant le financement par les fondations sud-africaines de George Soros de l'opposition sénégalaise. Il n'y a plus le financement, n'est plus possible. Macky Sall a une attitude ambiguë. On peut dire qu'il est assis entre deux chaises géopolitiques. D'une part, il s'est rapproché du bloc de l'Est. Il est devenu l'allié du Sénégal, l'allié de l'Iran. Il participe à trois grandes opérations géopolitiques iraniennes. D'une part, le corridor Téhéran-Caracas-Dakar pour contourner les sanctions françaises et américaines sur les ventes de pétrole. D'autre part, il a donné les nouveaux champs de pétrole aux Russes Lukoil et plus aux multinationales australiennes qui jusque-là contrôlaient le marché. Et troisièmement, il participe à ce qu'on appelle l'OPEP du gaz, c'est-à-dire l'Association des États producteurs de gaz, qui s'est réunie notamment en juillet 2019 à Malabo, en Guinée équatoriale. Cette OPEP du gaz vise à se réapproprier le marché du gaz et des hydrocarbures dont les Américains ont pris le contrôle en septembre 2015. Dans l'OPEP du gaz, il y a les Russes de Gazprom, il y a les Vénézuéliens, il y a les Algériens, il y a les Sénégalais, il y a les Iraniens et il y a la Guinée équatoriale, le leader du néo-panafricanisme, dont Bernard Massongo. Parallèlement à cela, malheureusement, le Sénégal de Macky Sall garde des positions du côté de la France, ce qui fait que de nombreux Africains doutent de ces positions. Il y a notamment la participation à certaines positions anti-maliennes de la CEDEAO. Maintenant, comme le Zouafrique le déclarait il y a quelques jours, il faut que Macky Sall donne des gages et se déclare notamment en position contre les tentatives de boycott du Mali. Il est bien certain que le Sénégal a tout à perdre à une politique de sanctions contre le Mali, puisque tout comme la Guinée qu'on a créée, le Sénégal est étroitement lié économiquement au Mali. Donc c'est l'heure du destin pour Macky Sall. C'est à lui d'apparaître clairement comme un dirigeant souverainiste qui se dirige vers le bloc de l'Est. Il a déjà d'ailleurs dans le domaine militaire fait restituer à l'armée sénégalaise la grande base logistique de l'armée française qui est à côté de Dakar et qui était la principale base de distribution des forces françaises en Afrique centrale. Aujourd'hui, la France ne dispose plus de cette base militaire. Et les Américains et les Français considèrent que Macky Sall n'est plus un allié fiable ni de l'Africom ni de l'armée française.
Deux militaires burkinabés ont trouvé la mort dans l'explosion d'une mine mercredi entre Ougaro et Matia Kouali dans le Gourma dans l'est du Burkina, a-t-on appris de sources sécuritaires. La mine a explosé au passage d'un véhicule blindé du convoi logistique de la mine d'or industrielle de Bongou, a expliqué la plateforme de suivi des attaques terroristes au Burkina Faso. Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d'attaques terroristes ayant fait de nombreuses victimes et plus de 1,5 million de déplacés internes. Au moins 4 soldats burkinabés ont été tués lundi dans l'explosion d'une mine entre la ville de Ouaïgoua et Tio dans la province de Yotenga dans le nord du pays. Le Cameroun prévoit de dépenser 1 milliard de dollars en 3 ans pour améliorer son offre en matière de santé. Dans ses prévisions à moyen terme, annexées à la loi de finances 2022, le Cameroun projette de dépenser près de 1,1 milliard de dollars dans le secteur de la santé sur la période 2022-2024. Pour la seule année 2022, le pays envisage de dépenser 203,23 milliards de francs CFA. Le principal défi est de disposer d'hommes et de femmes en bonne santé et bien formés, capables de porter une croissance forte et durable, De même, il est question de moderniser le système de sécurité et de protection sociale, selon les explications contenues dans le document de programmation économique et budgétaire à moyen terme. De manière générale, l'État souhaite construire plus d'hôpitaux, tout comme il veut relever le plateau technique des formations sanitaires de catégorie inférieure, sans oublier l'équipement des hôpitaux de district en matière d'imagerie médicale. La Chine va réaliser dans les prochains mois en Côte d'Ivoire un projet d'un montant global de 146,5 milliards de francs CFA, comprenant la construction de 7 établissements scolaires en vue de renforcer l'enseignement technique et professionnel dans le pays. Le lancement officiel de ce projet s'est déroulé lundi en présence du Premier ministre ivoirien Patrick Hachi dans le village d'Ebimpe, dans la sous-préfecture Daniama, près d'Abidjan. À Ebimpe, M. Hachi a posé la première pierre pour la construction de la cité de la formation professionnelle, un établissement qui va accueillir quelques 2000 élèves. Les autres établissements professionnels sont prévus dans les localités de Yamoussoukro, Korogo, Dabakala, Diabo et Kong. Ces établissements ont une capacité d'accueil totale de 6100 apprenants à qui seront délivrées des formations dans 14 spécialités dont l'agroalimentaire, la mécanique agricole, le froid et la climatisation, la mécanique générale, l'élevage, l'agriculture, le bâtiment et les travaux publics. Le gouvernement de la République du Congo prévoit de construire un réseau ferroviaire nord-sud de 1000 km pour faciliter l'évacuation de la production de minerais de fer via le port minéralier de Pointe-Noire en construction. Ce projet, qui a fait l'objet de discussions au cours du Conseil des ministres du 17 janvier dernier, pourrait être, selon le gouvernement, un levier important pour les projets miniers du pays. D'après le rapport de la Réunion, l'infrastructure devrait aussi servir de voie pour transporter du gaz liquéfié que le pays envisage de produire. L'initiative s'inscrit en droite ligne de la politique de diversification de l'économie nationale par la valorisation du potentiel minier du pays. Le développement du dit réseau devrait ainsi aider à diversifier l'économie du Congo.